Merci de votre présence à tous dans cette grande salle de la maison diocésaine. Je crois que quelques-uns qui sont nouveaux, merci beaucoup, quelques-uns qui sont nouveaux nous rejoignent. Je crois qu'il y en a qui s'appelle William, je crois qu'il y a Blanche, Céleste. On pourra se voir à la fin de notre rencontre pour que vous puissiez vous aussi, si vous le souhaitez, être intégrés au petit groupe. Alors, on va procéder assez rapidement. Ce soir, je vais vous faire un petit enseignement qui va juste avoir pour vocation de nourrir un petit peu votre réflexion la prochaine fois, puisque dans 15 jours, vous serez en petit groupe. Et puis assez tôt, au bout d'une demi-heure de réflexion à peu près, eh bien, on va constituer ces petits groupes et vous partirez quelques minutes faire connaissance du couple qui va vous accueillir pour prendre ne serait-ce que des informations utiles pour que vous puissiez vous retrouver. Je vais droit au but. On a choisi comme premier thème un thème dont on vous parle assez souvent, que ce soit dans les homélies, dans les topos, et Armand a coupé le son de mon micro. Ça marche? Très bien. Dans nos homélies, dans nos topos, et puis pour ceux qui ont fait InStar l'an dernier, il a beaucoup été question de cette question de la masculinité, de la féminité. Pourquoi a-t-on choisi ce thème? Et c'est un peu le sens des enseignements que vous allez recevoir. On n'appelle plus ça trop des topos, mais des enseignements. Relativement bref, les grands groupes, ce sera 35 minutes, mais assez dense, parce que vous êtes en première et en terminale. Et on ne vous propose pas simplement, je dirais, d'avoir des petits mots d'encouragement, même si c'est aussi ça, mais aussi d'apprendre à avoir du recul sur tout ce que vous vivez, tout ce qui vous est enseigné, et comprendre davantage les fondements de votre foi, de vos valeurs. C'est pour ça qu'on ne va pas hésiter dans ces temps d'enseignement parfois à évoquer des idées, des courants, des expressions de la foi chrétienne qui sont un peu plus exigeantes, mais qui vont rejoindre un petit peu le niveau d'enseignement que vous avez en première ou en terminale, où vous commencez la philosophie, où vous quêtez le sens. Donc ce n'est pas simplement des petites pages de quêter, parfois ça peut évoquer des choses que vous ne connaissez pas encore, mais ça va vous aider aussi à approfondir. Hommes et femmes, il les créa. C'est évidemment un thème qui nous est très cher, et c'est un thème, pour aller tout droit au but, qui concerne notre identité. Pour le dire comme ça, et ça je l'ai souvent dit en topo, il y a comme deux choses qu'on n'a pas choisies dans la vie. Exister et être un homme ou une femme. Rien que cela, je suis enregistré, aujourd'hui, c'est contesté. Hommes et femmes, il les créa, je vois deux choses, il les créa. Ça veut dire que dans la foi, mais ça n'est pas seulement dans la foi, c'est aussi dans la réflexion humaine. D'autres qui ne sont pas croyants pourraient nous rejoindre. Notre être, notre existence, on l'a reçu. On ne l'a pas choisi. Ça peut vous paraître débile de dire ça, mais en philosophie, on s'interroge parfois sur pourquoi j'existe au fond. Et concrètement, dans ma vie, parfois, je peux ressentir dans ma réflexion personnelle la grande question, est-ce que je suis pas une météorite tombée par hasard sur la Terre, ou est-ce que mon existence, ma vie, a un sens. Le simple fait d'exister est une vraie question. Et le simple fait d'exister spontanément comme un homme ou une femme en est aussi une autre. C'est la question de notre identité. L'évoquer, commencer par petite bride à l'évoquer devant vous, c'est vous dire une chose extrêmement importante. C'est que vous allez vivre dans une civilisation, et on veut vous y préparer, c'est le but d'Avance au large, où ce qui vous entoure perd complètement son identité. C'est vrai. Pour les individus, c'est vrai au niveau même de nos communautés. Tout est un peu nivelé. Les différences, l'identité personnelle, l'identité d'une communauté, d'une nation, aujourd'hui est complètement remise en cause. Et donc, vous êtes habitués à ce qu'on vous dise ça, alors qu'elles étaient très figées pour nos arrière-grands-parents, les civilisations qui nous ont précédés, peut-être même un peu trop ces identités, jusqu'à parfois transformer nation en nationalisme, ou individus peut-être en des personnes qui étaient très très différentes. Aujourd'hui, tout est, parce qu'on ne distingue plus, on confond. Et ça pose des grandes questions dans la vie. Alors qu'à l'origine de notre foi, il y a une distinction. C'est fou, quoi. Premier chapitre de la Bible, il y a une grande distinction qui est faite. Une grande affirmation. Il les créa, on ne s'est pas donné à nous-mêmes d'exister. Ça vient de plus haut que nous. Et il les créa, hommes et femmes. Et on conclura par ça. Et Dieu vit que cela a été très bon. C'est ce qu'il a créé de meilleur. La vie humaine et le fait d'être un homme et une femme. Et on ne peut pas davantage abîmer le cœur de notre foi que de toucher au sein des saints, du don de la vie, sacré pour les chrétiens, et du fait d'être un homme ou une femme. On est concret. Vous vivez dans une culture. Vous recevez des connotations dans les enseignements que vous avez, y compris dans nos établissements catholiques. La publicité en est en veille. Les films ne font qu'évoquer cela. Ce qui vous entoure, c'est une culture qui va, disons simplement, à l'encontre de ces deux vérités fondamentales. Pour dire que je ne suis pas totalement hors sujet, moi j'étais marqué cet été, alors qu'on est dans une culture aujourd'hui de survie par rapport au Covid, qu'on a eu les lois les plus criminelles de notre civilisation. Pensez donc. On va pouvoir avorter au 9e mois. Un jour, moi, j'ai demandé à un médecin, mais vous faites comment ? On prend une piqûre et on appuie. Voilà. D'un côté, on est dans la survie du Covid. De l'autre côté, c'est quand même un chiffre. Et je le dis, sachez-le, je suis prêtre. On reçoit des personnes qui ont souffert de la tentation de l'avortement, parfois même qui ont fait ce choix. Ma première réaction, c'est je respecte surtout d'abord ces femmes qui sont souvent seules dans ce choix. Je ne les juge jamais. C'est difficile. N'empêche que, on sauve quelques vies par les masques, et aujourd'hui en France, il y a 720 000 naissances et 250 000 avortements par an. Ça fait réfléchir. On nous parle d'une culture de vie, mais sachez-le, vous vivez dans une culture de mort. Dans une culture de mort qui, par rapport à ce simple fait qu'on est créé, que la vie vient, comment dirais-je, d'un autre. Vous pourrez lire, si vous souhaitez approfondir, par exemple, des livres comme « Le meilleur des mondes » d'Huxley, « Le 1984 » de Orwell. Ces prophéties, c'est écrit il y a 30, 40 ans, ces prophéties qui prévoyaient un monde où l'homme pourrait être tout puissant sur l'origine de sa vie, jusqu'à promouvoir le suicide. Je veux avoir puissance sur ma vie, être maître de ma vie, et même de mon identité. Je veux choisir tout ce que je suis. Eh bien, ces deux affirmations-là, ce monde inhumain contre lequel vous résisterez et contre lequel le bon sens de beaucoup de gens veulent résister, ce monde inhumain s'oppose à une vérité à laquelle le bon sens, encore une fois, c'est la raison, pas seulement la foi, nous fait dire que, en fait, notre identité, on la reçoit. Ces deux visions opposées. Parmi ces deux visions opposées, on n'a pas beaucoup de temps, un jour, si vous voulez, on parlera de celle-ci, je pense que vous avez déjà entendu parler. Elle concerne moins le simple fait qu'on existe. Ça pourrait être le thème du transhumanisme. Vous allez peut-être en entendre parler cette année, c'est important que vous le sachiez. Le transhumanisme, c'est l'idée que l'homme maîtrise complètement le fait de vivre et de vivre un certain temps et d'être un surhomme, donc c'est un petit peu lié à ça. Mais la théorie du gender, qui est malheureusement, c'est important que vous le sachiez, à l'origine, tout vient des États-Unis un petit peu, ça vient des années 1960, Judith Butler, dans un contexte, et c'est ça la difficulté pour vous aujourd'hui, dans ces contextes de discussion un peu délicates, c'est qu'il y a toujours une part de vrai aussi. C'est né dans un contexte de ce qu'on appelle le féminisme. Et le féminisme, qu'on pourrait distinguer entre le féminisme modéré et ce féminisme-là, le féminisme du gender, il faut distinguer parce qu'il y a un bon féminisme. Moi, je suis... Et l'Église, d'ailleurs, a toujours défendu... Parfois, elle s'est mêlée à la société, elle ne l'a pas fait assez, mais elle a toujours défendu la dignité de la femme. Saint Paul le disait, homme, femme, on est tous à égalité. Jésus a rétabli l'égalité fondamentale. Il y a un bon féminisme, il n'y a pas de doute là-dessus, qui fait dire que les femmes ont l'égale même dignité que les hommes. Mais il y a eu aussi un féminisme terrifiant. Mesdames, mesdemoiselles, mademoiselles, enfin, il y a des dames aussi. Féministe qui porte un regard sur votre féminité qui est vraiment horrible. Qui nous fait dire que le simple fait de porter un enfant est avilissant. Dans le meilleur des mondes, c'est un monde, d'Huxley, où tous les enfants sont faits en laboratoire, parce que les femmes ne veulent plus porter d'enfants, parce que leur corps serait abîmé. Soyons très concrets, c'est vrai que le corps d'une femme, quand il a porté un enfant, ça laisse des traces qui changent son apparence, qui ne la rend pas moins belle d'ailleurs, et encore moins respectable, c'est le contraire, parce qu'elle devient mère et son corps a été mis. Mais Judith Butler va dire une chose inouïe, mais qui malheureusement est très présent en filigrane dans beaucoup de choses qui vous sont dites, c'est que masculin ou féminin, si vous voulez, ça peut s'appliquer à n'importe quel corps, qu'il soit physiquement le corps d'un homme ou le corps d'une femme. C'est-à-dire qu'elle distingue le genre, d'où la théorie du gender, du sexe. C'est-à-dire que ce que l'on a reçu dans notre identité n'aurait plus d'importance. Simplement, ça devient l'objet d'un choix. On choisit son identité. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas totalement faux qu'on choisit un peu son identité selon ce que j'apprends, selon mes relations, selon mes désirs. Mon identité éducative, dans l'amitié, dans la profession, elle va être un peu modifiée. Je peux même changer un peu mon apparence. Je peux être blonde, je peux devenir brune. Après, parfois, on ne devient plus rien quand on n'a plus de cheveux, c'est comme ça. Mais notre identité physique, elle peut obliger à changer. Mais voyez-vous, ce que ce féminisme du gender va dire, c'est qu'en fait, notre identité sexuelle serait l'objet d'un choix. Alors, je suis obligé d'aller vite. Mais ce n'est pas ce que... Alors, soyons très clairs, au fait de la philo, quand vous êtes en philosophie, on peut vous accuser si vous dites quelque chose qui ne va pas forcément dans le sens d'un texte qui vous est donné, que vous dites ça parce que vous êtes catho. Ben non. Moi, je suis prêtre devant vous. Mais je ne dis pas ça parce que je suis catho. Je dis ça parce que je réfléchis. Et que j'ai un cerveau. Ça s'appelle la raison. Et vous savez, aujourd'hui, on ne perd pas tant la foi que la raison. Moi, j'ai envie de vous dire, on est dans une maison diocésaine, on est entre chrétiens, et certains parmi vous, voilà, vous avez votre chemin de chrétien. Mais le plus urgent, c'est de garder ça. Parce que si vous perdez ça, vous perdrez ça. Si vous n'avez plus à réfléchir, et je suis obligé de vous le dire, à ne pas boire comme des ânes parfois ce que cette culture ambiante vous donne, vous êtes perdu. Vous vous ferez engloutir. Si on veut être libre, disait un philosophe, il faut avoir le courage de penser. Et de penser par soi-même. De vérifier que l'information que je reçois est juste. De vérifier que cette pensée ambiante, elle correspond à la réalité. Excusez-moi, moi je suis fils de paysan, donc parfois la réalité, j'y viens souvent. Quoi. Vache, le taureau, le veau, enfin voilà, c'est tout ce qui marche. Hein. Alors c'est caricatural, si je dis ça, je passe pour un intolérant. Et le problème de ça, et ça demande une infinie délicatesse, c'est qu'on peut réfléchir à ce qu'est notre identité, on peut aussi penser, avec l'anthropologie qu'on appelle réaliste, anthropologie, anthropos en grec ça veut dire l'homme, anthropologie c'est la réflexion sur l'homme, et réaliste, je dirais, c'est la conception de l'homme dans le bon sens, qui s'oppose à la théorie du gender, qui dit des choses inouïes, mais comme ça plaît, comme ça, c'est facilitant pour une fausse liberté, ça passe. Peu importe que ce soit faux, théoriquement. L'important, c'est que c'est avantageux pour que je sois libre. C'est vraiment ça. L'anthropologie réaliste, c'est, je dirais, la résistance du bon sens, de la nature. C'est une forme d'écologie, de respecter la nature comme on est. Et je dis une chose importante, c'est que tous ces sujets-là, là je suis un peu trop rapide, souvent je suis plus précautionneux pour en parler, tous ces sujets-là touchent aussi beaucoup de blessures. De blessures de gens qui vous entourent. On pourrait conclure cette mini première partie en disant ceci, qu'en fait, ça nous pousse à travailler le lien entre ce qu'on appelle la liberté et la nature. On est un peu en philo. Attention à la concession, vous avez la liberté. Si vous considérez que la liberté, c'est faire ce que je veux, devenir ce que je veux, de ne pas être dépendant d'autres, ou de recevoir quelque chose, alors vous serez englouti par le gender et par toutes ces théories, et vous n'arriverez plus à trouver votre identité. Parce qu'en fait, on est libre, la liberté ça se reçoit. En fait, on est dépendant de beaucoup de choses, et il faut y consentir. On n'a pas le corps qu'on a choisi, on n'a pas le sexe qu'on a choisi, on n'a pas la famille, l'histoire. Il y a parmi vous des jeunes gens qui sont adoptés, d'autres qui ont, comme c'est mon cas, perdu leur père quand il était jeune. D'autres qui considèrent qu'ils sont passés à côté de certaines choses dans leur vie. D'autres qui ont eu des épreuves. D'autres peut-être à qui on a fait du mal, y compris dans leur sexualité. Et ça laisse des traces. On n'a pas choisi. Mais même quand on n'a pas choisi des choses, on reste libre. Notre héritage, c'est un héritage d'identité qu'on a reçu de très loin. c'est aussi un héritage, je passe un peu là-dessus, de nos blessures. Parce que il faut que vous soyez conscients, mes chers jeunes amis, que la sexualité est la chose la plus belle que Dieu ait créée. Il n'y a rien de plus beau que d'être un homme ou que d'être une femme. C'est Dieu a jeté un regard d'admiration sur ça. C'est sa plus belle invention. Il aurait très bien pu faire que nous soyons des individus sans qu'il y ait cette différence. Hein. C'est la plus belle invention de la création. Mais c'est une invention dans laquelle on est, comme c'est la chose la plus belle, c'est ça dans la vie, les choses les plus précieuses sont celles qui s'abîment le plus vite. Ah, si j'ai un vêtement, si je l'abîme, bon, c'est pas trop grave. Parce que je porte un vêtement et je vais en trouver un autre. Si je suis abîmé dans mon identité profonde, dans ma sexualité, c'est plus dur. Et de fait, il y a dans vos amis, il y a peut-être autour de nous, peut-être en nous, des blessures par rapport au simple fait d'accepter que je sois un homme ou une femme. Au simple fait d'accepter que je sois une femme, mais pas celle que j'aimerais être, ou un homme, pas, je n'arrive pas trop à l'être comme je l'aimerais. En fait, ça s'appelle chez nous dans la foi le péché originel. Oubliez peut-être un peu l'histoire du péché originel, qui est une illustration. Ce qui compte, c'est la réalité, c'est qu'on s'aperçoit tous, vous et moi, qu'on est des êtres blessés. Que cette identité, elle est en nous. Voilà, j'ai reçu la vie, je suis un homme, une femme, mais c'est pas simple de l'être de manière parfois sereine. Il y a des blessures de mon origine. J'évoquais, alors je vais prendre juste des exemples. J'ai beaucoup de respect pour les enfants, les jeunes gens adoptés, qui parfois s'interrogent sur leurs origines. C'est un beau chemin qu'il faut parcourir dans la sérénité. Parfois, ce n'est pas toujours facile. Ça peut être une blessure aussi. Disons les choses, vous êtes grands maintenant, on dit les choses. Parce que mes parents se sont séparés. Donc j'ai vécu un manque à un moment donné de ma vie. Ça laisse des traces. La vraie question, c'est comment je vais faire fructifier cela? Parce que comme la nature, excusez-moi si l'image vous apparaît un peu bizarre, mais encore une fois, moi je suis un homme de la terre. Mon grand-père et mon père, ils étendaient sur la terre du lisier. Vous savez, du lisier de purin, du purin de cochon. Je peux vous dire que j'ai même un frère un jour qui a fait ça parce qu'il y avait une rêve partie qui s'annonçait. Il n'avait pas envie que ce soit là. Il a étendu du lisier de purin. Je peux vous dire qu'à 3 km, il n'y avait pas de rêve partie. Hein. Il a été tranquille. Ils ne sont pas venus pour leur foutre des saloperies. Mais quand même, la nature, elle a un pouvoir incroyable. Elle va transformer ce qui pue, ce qui n'est que déchet, en force de vie. C'est incroyable, heureusement. Elle a la terre, elle a cette capacité-là. Eh bien, c'est comme ça pour nos blessures. Nous aussi, on a comme des déchets, des choses un peu ratées dans notre identité profonde. Ça va servir ma semence profonde. Pour ça, il faut en parler, il faut avancer, il faut sans doute, si je mets le doigt dessus, être accompagné, etc. C'est les blessures de mon origine. C'est aussi les ailes, j'avais mis comme titre les racines abîmées, parce qu'on a besoin de racines pour avoir une identité. J'avais mis aussi les ailes coupées, les blessures de ma destinée. On pourra en reparler, peut-être au mois de novembre, mais moi je pense qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'être heureux dans notre identité, c'est l'oubli du fait, excusez-moi, ça va paraître bizarre, qu'on est fait pour le paradis, pour la vie éternelle. C'est pourquoi les gens ont peur de la mort? Parce qu'ils l'ont oublié qu'on est fait pour la vie éternelle. Les premiers martyrs chrétiens, ils n'avaient pas peur de la mort. Les saints n'ont pas peur de la mort. Alors, je dis ça en même temps, les meilleurs saints, quand ils sont devant les affres de ce moment-là, humainement, ça peut être difficile. Mais même à votre âge, pardon, on m'entend moins bien, même à votre âge, il n'y a pas... Quand on est jeune, on peut penser à la mort de manière positive, parce que vous avez toute la vie devant vous, comme on dit, mais vous avez surtout toute la vie éternelle devant vous. Hein. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez dans votre vie, ça va être suspendu à quelque chose de plus grand. Et si notre monde oublie qu'on est fait pour une grande destinée qui est le bonheur éternel, ça ne donne pas forcément sens à mon existence. J'appelle ça les blessures de ma destinée, la désespérance, le désespoir, quand il n'y a plus rien à espérer. L'espérance, c'est dans tout ce que je suis, quelles que soient mes blessures, c'est que le plus beau est toujours devant nous. le plus beau sera toujours devant vous, même si le quotidien est un peu difficile. Ça, c'est une définition de l'espérance chrétienne. Le plus beau est toujours devant nous. Et donc, il y a aussi ces blessures de mon être sexué. Et comme le temps certainement avance, il faut que je fasse attention. Je voudrais en venir donc en conclusion à dire que ma sexualité, alors vous avez bien compris que quand on parle de sexualité, c'est bien plus large que le mot habituellement employé et qui désigne généralement que les aspects physiques, charnels. C'est toute notre identité qui est sexuelle. Toute, psychologiquement, affectivement, physiquement, qui porte cette belle empreinte du projet de Dieu, qui colore. C'est un peu comme du sirop qu'on met dans l'eau. Ça colore tout, quoi. Et c'est magnifique que ça le soit. Vous voyez ? Donc, j'aurais passé au regard de foi en vous disant ceci, que quand on lit dans les textes de la Bible, ceci dit au passage, vous savez que ces textes de la Genèse, de la création, que parfois vous pouvez entendre ici ou là qui sont caricaturés parce que sous prétexte que la science a été au-delà de cela, j'évoque aussi un thème qu'on pourra travailler. Moi, j'ai changé d'avis le jour où j'ai découvert en lisant un livre d'Einstein, le dernier livre de sa vie, un des derniers chapitres, je crois que c'est au chapitre 8, l'histoire des idées en physique, il a dit « J'arrive au terme de ma vie, Einstein. Je considère que rien n'a été écrit de plus intelligent sur l'origine du monde que le texte de la Genèse. Einstein. » D'accord ? Et beaucoup de scientifiques, contrairement à ce que parfois on dit, pensent ça. Ça ne veut pas dire que la Genèse décrit le comment. Mais ça a du sens. Et il y a un âge où on peut comprendre ce sens. Ce sens, c'est par exemple la hiérarchie du vivant que vous voyez ici-là, symbolisée avec les sept jours. Ce sens, c'est par exemple ce lien charnel entre l'homme et la femme, et l'homme qui dit « c'est la chair de ma chair, c'est mon alter ego », ce cri d'admiration de l'homme pour ce vivant qui est différent de tous les autres vivants parce qu'elle est femme, isha. Et elle dit vraiment « c'est ce qui me manquait ». Cette affirmation qui dit qu'on ne peut être heureux sans l'autre. Vous voyez, c'est des choses qui sont profondément reconnaissables, également aussi par la science, même si elle ne dit pas le comment. Hommes et femmes, il les créa. C'est donc l'histoire, pour nous, d'une reconnaissance qu'on ne peut être heureux sans l'autre. J'oriente déjà un petit peu vers les questions que vous pourrez avoir la prochaine fois. On ne peut pas être heureux, nous les hommes, sans les femmes. C'est un prêtre célibataire qui le dit. D'abord parce que j'ai eu une mère. Ensuite parce que j'ai eu des sœurs. Ensuite parce que je m'accomplis dans mon humanité aussi, dans cette altérité, selon les vocations qu'on a. Et réciproquement. La sexualité, la définition le plus beau qu'elle soit, c'est donc une ouverture à l'autre. Si Dieu nous a créés sexués, c'est pour nous tourner vers l'autre. Pour que comme l'homme qui admire la femme qui est tirée de sa chair, symboliquement, dise « Ah, merci Seigneur, je me sentais tellement seul. » Tandis que là, c'est cette part, c'est ce petit chromosome-là qui me manquait pour m'accomplir. Vous savez, un jour, j'ai eu la chance de suivre des cours avec un futur peut-être grand saint qui s'appelle le professeur Lejeune, il n'est pas connu parce qu'il est décédé. Il y a un procès de béatification. Le professeur Lejeune, c'est celui qui a découvert les maladies chromosomiques. Et il commentait ce texte de la Genèse, je me souviens d'un cours que j'avais eu avec lui. Il disait, vous savez, en hébreu, ish, ça veut dire homme, isha, ça veut dire femme. Et si un jour vous faites de l'hébreu, vous verrez que les consonnes, c'est des grosses lettres, et les voyelles, c'est des petites lettres. C'est-à-dire, isha, c'est un tout petit signe. Alors il dit, ce qui se passe en hébreu, c'est ce qui se passe dans les chromosomes. Il y a un petit chromosome différent chez la femme. C'est le complément. Isha, c'est la même racine. Et mesdames, c'est tout à votre honneur, il y a un petit plus chez la femme. Un petit plus. Quelque chose qui est de l'ordre du don, de la gratuité, qui donne sens à la vie, qui est à l'origine de la vie. Donc, les questions que vous aurez la prochaine fois, vous êtes grand maintenant, vous n'allez pas disserter sur tout ce que je viens de dire, mais tout ce que je vais vous dire, c'est des pistes, hein. C'est pas systématique. Je vous poserai les questions pour vous dire, allez, et je vous demandera une réflexion sérieuse. Si vous êtes jeune fille, qu'est-ce que vous apporte la masculinité et qu'est-ce que vous attendez d'elle? Si vous êtes un garçon, qu'est-ce que vous apporte la féminité et qu'est-ce que vous attendez d'elle? Alors, c'est difficile, hein? Si je dis ça à des collégiens, je sens des sourires gras. Ou d'un malaise, ça c'est difficile à exprimer. Mais alors que vous êtes à l'aube de vos engagements dans 3, 4 ans, 4, 5 ans, vous allez y réfléchir, c'est quand même des questions hyper importantes, ça. Et on ne peut pas professer, si vous voulez, une société où l'homme et la femme ont leur place sans qu'on n'ait pas nous-mêmes compris ce qu'est la beauté d'une femme si je suis un homme, et réciproquement, et qu'on s'y encourage, si je puis me permettre. Je le dis à vous, je vous l'avais déjà dit peut-être l'année dernière, les filles de seconde et les garçons de... Les filles, en étant ce que vous devez être, vous aidez les garçons à être des garçons et des hommes. Les garçons, en respectant les filles, pour ce petit chromosome qui fait leur beauté, et qu'on ne doit pas toucher, je le dis à tous les sens du mot, eh bien, vous les aidez à être des femmes. On est interdépendants les uns des autres. Vous avez remarqué, avant son large, on a des temps où on n'est pas en mixité et des temps où on est en mixité. Les temps où vous n'êtes pas en mixité, c'est pour que vous soyez plus libre d'en parler et les temps où vous vous retrouvez, c'est pour que vous soyez plus fort pour être complémentaire. C'est un peu la conclusion de ce que je voulais vous dire. J'allais dire devenir par grâce ce que je suis par nature. Là, je ne vais pas avoir le temps de le dire. J'ai envie de dire mieux connaître pour mieux aimer, d'abord mieux se connaître pour mieux s'aimer, ça c'est déjà un chemin personnel. Ceux qui ont cours à l'IMAC avec moi, on fait parfois des travaux sur l'identité, sur le caractère. Le but c'est de mieux se connaître pour mieux s'aimer. Mais aussi, ça vaut pour ça entre garçons et filles. Mieux savoir ce qu'est un garçon pour mieux aimer la masculinité et ce qu'est un homme. Et vous, messieurs, passant de parfois les caricatures de l'immaturité de votre âge du collège, d'arriver à un stade où, pour vous, la femme est un trésor. Mieux la connaître pour mieux l'aimer. Alors, ce sera la réflexion qu'on vous posera. On va vous poser des questions assez simples à répondre, pas trop théoriques, on verra ça avec les couples. Vous voyez, c'est pas vraiment une réflexion très construite ce soir. C'est un petit peu, parfois, des pensées un peu provocatrices, parfois des choses qui évoquent des thèmes que vous auriez envie d'approfondir davantage. Mais c'est l'esprit un peu de nos échanges avant sur la journée. On essaie de dire des choses fortes. On vous recommande des lectures parfois. En petit groupe, vous allez les approfondir. Et ça vous permet aussi peut-être de renouveler. Il y a une vraie difficulté quand on est jeune chrétien, c'est que, bon, il y a eu souvent le catéchisme de l'enfance. Il y a eu un âge, disons les choses assez simplement, au collège, où je ne sais pas si on a appris beaucoup de choses, où c'était un petit peu cas, où c'était plutôt des expériences. Mais là, vous arrivez à un âge où il faut faire marcher ça. Excusez-moi d'insister là-dessus. Attention. Attention, vous êtes vulnérable. Si vous ne pensez pas, vous serez esclave. Si vous pensez votre foi, si vous pensez vos valeurs, si vous savez pourquoi vous êtes chrétien, pourquoi vous croyez en votre identité, là vous serez libre. Attention, c'est hyper important ce que je dis. Parce que le monde nous contraint à ne pas trop réfléchir, à être des moutons de panurge. Et ça me fait peur. On veut des êtres libres, qui pensent. Ça demande des efforts. Ça invite à la maturité. Ça invite à pas forcément suivre ses instincts, tout simplement à réfléchir avant d'agir. On n'aime pas une fille sans avoir d'abord réfléchi. Pourquoi ? Et réciproquement. Je ne fais pas les grands choix dans ma vie sans avoir réfléchi. Pourquoi ? À ce qui est beau, à ce qui est vrai, à ce qui est juste. À ce qui fait que le soir, quand je m'endors, je m'honore moi-même. D'avoir fait plutôt ce qui est bien, plutôt que d'avoir subi comme des moutons ce qui m'entoure. C'est un peu direct, hein ? Ça nous fait bouger. Comme il est déjà 21h15, je vais maintenant dire un petit mot sur les petits groupes.